Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas de temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit,
c'est l'Afterfoot. Gilbert Blibois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, l'after qui continue, vous le savez, tous les soirs en direct, 7 jours sur 7 sur RMC, avec vous, même pendant cette période sans foot, bien sûr, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Daniel Riolo est là, Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Et Pierre Ducrot, toujours chez lui en radio-travail, salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
À 23h40, les gars, Julien Cazard sera là pour la troisième manche de la finale du grand tournoi entre Jérôme et Jonathan McCarthy, à partout après les deux premières manches. Voilà, troisième set tout à l'heure. Mais l'événement ce soir dans l'after, c'est Christophe Boucher, l'ancien président de l'OM, sera avec nous dans quelques secondes. Son avis est toujours très intéressant concernant la crise actuelle que traverse le foot français, la cacophonie des présidents, la gouvernance. On vous attend au 32-16 pour discuter, débattre avec nous et avec Christophe Boucher dans quelques secondes. Tout ça sans oublier l'actu du jour. Paulo Breitner sera là dans une demi-heure, la reprise annoncée de la Bundesliga dans 9 jours. Voilà, ceux qui en peuvent plus de ne pas avoir de foot, c'est encore 9 jours à tenir.
Rien à voir de l'audience. Là.
Avant un excellent Werder Bremen Union Berlin.
Ça voilà. Démarre pas par une affiche par hasard.
Je sais pas, là on sait rien, je t'avoue.
Un bon match, on sait pas. Hein.
Ah, une affiche, de toute façon, le calendrier.
Le derby de la Roure.
Ouais.
Je crois.
Tu l'as dit, une affiche entre mecs qui s'entraînent en se touchant pas.
Il y a Schalke Dortmund.
Ah, sais dans la Roure, il y en a plus d'un.
Non, mais le derby de la Roure, c'est celui-là. Donc,
oui, c'est celui-là. Bon, on verra avec Paulo tout à l'heure.
Je vais regarder tout de suite.
22h30. À 23h, la suite de nos débats tactiques. Ce soir, Julien Momon nous expliquera le nouveau rôle des coachs en la matière, en matière de tactique, notamment comment certains travaillent avec leurs adjoints pour élaborer tout ça. Ce sera intéressant, donc à 23h. Et puis à 23h30, suite à une proposition que vous avez faite sur le hashtag MonAfter, vous savez, nos after stories, vous vouliez que nous parlions de Mönchengladbach, du grand Mönchengladbach des années 70, l'équipe préférée de Jean-Michel Larqué. On sera avec Paulo à nouveau qui nous racontera cette épopée de Mönchengladbach qui étincelait de mille feux dans le football européen à cette époque. Ce sera tout à l'heure. Le 32-16 est ouvert, bien sûr, pour tous ces sujets. Le hashtag RMC Live sur Twitter, Direct Studio sur nos applis, appli RMC, appli RMC Sport pour nous envoyer des messages, écouter l'after, télécharger nos podcasts. N'hésitez pas à, bien sûr, consulter les applis. Et Christophe Boucher nous rejoint dans l'after. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, on est ravis de vous avoir parce que vous savez, nous, l'after, on est là tous les soirs depuis qu'il n'y a plus de foot. Et on a tourné dans tous les sens les débats, reprise par reprise, gouvernance, choix des uns, position des autres. Enfin, voilà. Donc, votre avis d'expert nous intéresse, d'autant que vous avez donné une interview très intéressante il y a quelques jours en la matière. Est-ce que, Christophe Boucher, vous comprenez les présidents qui, comme Jean-Michel Aulas, disent aujourd'hui on n'aurait pas dû se précipiter, la décision gouvernementale d'arrêter le foot était bien trop hâtive.
Oui, on peut toujours comprendre. On peut toujours comprendre parce que, de toute façon, dans le Covid, dans la gestion de la crise, il n'y a que des mauvaises solutions. Donc, de toute façon, il faut faire l'arbitre entre de mauvaises solutions. Donc, le gouvernement n'a le choix que de faire des mauvaises solutions. Des moins mauvaises solutions peut-être parfois, et pour le foot, il aurait pu aussi faire d'autres solutions. Mais je pense que la solution qui était dictée pour le gouvernement au sujet du foot, le foot peut aussi un peu s'en prendre, le foot français, des clubs, je précise, le foot français des clubs, peut s'en prendre aussi un peu à lui-même. C'est-à-dire d'avoir affiché ce triste spectacle à la France entière de déchirement, de pantalonnade, de d'émissaires, de groupes de pression, de désaccords. Qu'est-ce que vous voulez ? À un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui siffle la fin de la partie. Le gouvernement l'a fait. Je crois que si Jean-Michel Aulas est déçu de la décision, il peut un peu s'en prendre à lui-même.
Vous avez parlé dans l'interview d'images indécentes données par le football. Évidemment, ce que vous venez de dire participe de cette image. Plus globalement, vous pensez que c'était une occasion pour le foot français, justement, peut-être de gommer un peu cette image, parce que cette image, elle a également fait que la plupart des gens, des Français, même supporters de foot, on dit c'est pas grave si ça s'arrête et si on fait rien pour que ça reprenne, parce qu'après tout, en gros, c'est des caprices de riches, ce qui retombe souvent toujours un peu sur la tronche du football. On fait rien finalement pour échapper à cette image-là négative.
Vous avez tout dit. Vous avez tout dit, le football français de club a une image médiocre, à tort et à raison. À tort parce que il y a dans le football la dimension d'argent et que c'est tabou pour les Français, que ça l'est moins pour les Allemands et moins pour les Anglais, encore moins pour les Anglais. Donc des fois à tort, mais à une image médiocre. Et là, le foot avait une occasion, excusez-moi parce que c'est assez cynique comme propos finalement, avait une occasion en or de montrer ce qu'il était, de montrer sa générosité, de montrer son partage, de montrer qu'il faisait société avec le reste de la France. Et alors, au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a eu ? Bah, on a eu des déchirements, des engueulades, des joueurs, je trouve, qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Moi, j'en veux beaucoup aux joueurs qui n'ont pas pris leurs responsabilités, comme certains l'ont fait dans d'autres pays. D'ailleurs, ce qui aurait apporté beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes du foot. Et puis, pour les plus avisés, il y a quand même aussi...
C'est quoi prendre ses responsabilités, M. Boucher ? Pardon, je vous coupe.
C'est prendre ses responsabilités, c'est de dire que on pouvait trouver une solution assez simple, me semble-t-il, que les joueurs abandonnent 3 mois de leur salaire sur l'année et qu'ils puissent être reconduits d'un an s'ils le souhaitaient, pour pas que les clubs en profitent, hein, parce qu'il y a des clubs qui auraient profité de l'aubaine, donc il fallait empêcher les clubs de profiter de l'aubaine, et que 3 mois dans une vie de joueurs. On aurait pu le plafonner, on aurait pu trouver des solutions techniques pour que les joueurs qui touchent moins, peut-être, aient d'autres solutions. Ouais. Bref, il y avait plein de solutions.
Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus.
Donc, ils abandonnaient 3 mois. Ça sauvait les clubs, ça sauvait leur année. Ils étaient reconduits, donc quelque part, les joueurs pouvaient y gagner aussi, sauf ceux qui ne voulaient pas. Je trouve vraiment qu'il y avait une solution en or à trouver. Et elle aurait vraiment donné une image aux joueurs supérieure à celle qui est aujourd'hui. Donc, elle aurait donné d'ailleurs une position de leader, une position d'exemple.
Et, absolument,
et
c'est vrai.
Il ne faut jamais oublier que le football professionnel est suivi. C'est aussi, ce n'est pas sa vocation, mais c'est une conséquence de sa popularité. C'est aussi une valeur d'exemple pour les gamins. Moi, j'ai encore un gamin de 15 ans, 16 ans, mais il suit pas à pas ce que font les joueurs de foot. Il suit les réseaux sociaux, il suit ce que les joueurs de foot disent.
Ouais, c'est vrai. Mais Monsieur Boucher, là, à l'arrivée, vous avez de l'expérience, vous, en tant, vous avez été président de club. Vous pensez pas quand même que c'est l'image que dégage votre président, le sens des responsabilités? Quand vous avez un président.
Tu parles de qui, Edouard Legrette, là?
Sur l'ensemble, ce que vous avez dit, et moi je rejoins, et Daniel le disait aussi, le fait que ça soit, il y a eu entre l'indécence et puis défendre son petit bout de gras chacun.
Tu dis qu'à partir du moment où en haut l'exemple est mal donné, l'exemple a été
pour les joueurs, vous êtes d'accord avec moi que pour les joueurs c'est aussi compliqué d'avoir une union sacrée, sachant que tous les présidents se déchirent.
Oui, non mais j'entends le propos. Il y a un vrai problème. Alors non mais mettons les pieds dans le plat. Hein. Ouais. Il y a un vrai problème d'exemplarité de la gouvernance des clubs en France et de la Ligue.
Oui.
Clairement. C'est-à-dire, quand t'as la moindre erreur d'arbitrage, de VAR maintenant, de calendrier, de je ne sais pas quoi, il y a une contestation et on va voir ce qui va se passer et on va aller en justice et Pierre-Paul Oujac est un imbécile. Et quand vous voyez la pantalonnade qu'on a eue avec les droits TV où on envoie Nasser El Khelaifi négocier avec son concurrent,
vous négociez avec lui-même même.
Son concurrent désormais allié dans le business.
Mais alors, excusez-moi Christophe Boucher, mais est-ce que finalement tout cela ne vient pas d'un problème structurel? C'est-à-dire que à la Ligue, on est encore en mode associatif et en fait la structure actuelle de notre football professionnel favorise tout ça. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être changer la structure.
Ce que ne veulent pas les présidents depuis 20 ans, la structure, vous avez raison, c'était en discussion, c'est revenu souvent sur le tapis du cadre juridique. Mais le cadre juridique, il est un peu accessoire, même si ça peut avoir son importance, il est accessoire. C'est que les présidents, les dirigeants français, les propriétaires de clubs, les présidents n'ont pas compris depuis des décennies qu'ils seraient plus forts ensemble que seuls de leur côté. Le problème en France, c'est que tout tous imaginent qu'à un moment ou un autre, parce qu'ils sont troisième du championnat, ils vont tirer demain leur épingle du jeu et qu'ils vont gagner à la grande martingale.
Et qu'ils n'auront plus besoin de personne.
Exactement.
Ah mais ça voilà. C'est...
Exactement. Et donc, et un Jean-Michel Aulas pour qui j'ai le plus grand respect et d'ailleurs une profonde admiration pour la ténacité du bonhomme, et c'est ce qu'il joue depuis 20 ans. Il fait son stade. Voilà, et les instances l'intéressent guère, sauf pour voir si l'OL n'est pas des fois dans des décisions mises de côté. Mais il s'en fiche. Oui, vous avez raison. Il faut aussi changer de gouvernance. Mais depuis 20 ans, 30 ans, on ne souhaite pas qu'il y ait un président de la Ligue fort. On ne souhaite pas qu'il y ait un dirigeant fort.
Concrètement, arrêtons-nous là-dessus deux secondes, parce qu'on en parle souvent de ça. Sauf que, concrètement, peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas exactement comment ça marche. Pendant des années, on a eu un président de la Ligue, donc post Sadou le Grette, puis Thirier. On a le sentiment que c'était selon la personnalité du président qu'il arrivait à s'imposer un petit peu plus. Mais ça tenait de sa responsabilité et non pas des pouvoirs réels qu'il avait. Parce que finalement, il était l'émanation du vote et des arrangements de tout le monde professionnel qui décidait de porter à sa tête une personne. On a changé ça en mettant un directeur général, Didier Quillot, qui donc est dans ses fonctions, boss. Le président, d'un coup, on savait plus trop qui c'était. À la dernière élection, limite, à un moment, on avait oublié de voter pour lui. Et puis, au dernier moment, Nathalie Bois de la Tour est sortie du chapeau. On pensait qu'elle ferait un peu présidente style 4e République pour inaugurer les stades. Et puis, bon, elle aussi, elle a voulu, parce que c'est à juste titre, elle a pas considéré que c'est un pantin. Elle a voulu avoir un peu de pouvoir. Donc, tout s'est un petit peu à nouveau morcelé. Mais quel pouvoir réel pourrait avoir un patron de la Ligue à partir du moment où ce sont les présidents qui lui transfèrent ce pouvoir? Vous voyez cette espèce de blocage permanent qui va y avoir?
Oui, je comprends, mais parce qu'ils n'ont pas l'intelligence et la personnalité suffisamment forte pour transférer effectivement leur pouvoir à un véritable homme fort.
Voilà.
Qu'est-ce qui fait le succès? Tout le monde sait quel est le succès de la NBA. C'est dû pas à un homme, c'est pas vrai. Mais il y a eu un homme pour porter le succès de la NBA, qui est David Stein.
David Stein, bien sûr.
Qui sait? Tout le monde sait que la Formule 1 était tournée un petit peu en rond dans les années 70, avant qu'un homme arrive à la tête et dise bon bah on va réformer le sujet, voilà comment on va faire, et qui n'a pas peur de dire à Ferrari écoute t'as fait une bêtise, t'as triché, on te met sur le côté ou on te ponctionne 10 ou 15 millions de dollars.
Absolument. Bon, on a eu ça en Angleterre avec Scudamore au moment de la première ligue.
Oui.
Autre président fort.
Là, ce qui était dit, je ne sais pas qui l'a dit, j'en suis désolé, mais oui, quand le président donne le triste spectacle à la fin du match d'engueuler l'arbitre...
C'est le grand Jérôme Rotten qui a dit ça.
C'est le grand Jérôme Rotten. Conteste. Bah, pourquoi voulez-vous que le club fasse pas la même chose que l'entraîneur de son côté, que les joueurs? Ils se sentent protégés par ça. C'est normal. Et avec l'exemple qui est donné, qui n'est pas le bon. Or, là, à ce moment-là, celui qui fait ça, il faudrait qu'il y ait une ligue forte, ou un homme fort, ou les deux d'ailleurs, ce qui serait encore mieux, qui disent c'est 3 points en moins, ou s'il faut toucher au porte-monnaie, il faut le faire de façon brutale, c'est-à-dire il faut que ça soit tout de suite en millions d'euros, de façon à ce que les choses s'apaisent. Bon, regardez, le rugby a réussi ça, le rugby n'a pas tout réussi, des fois le rugby singe un peu le football. Mais regardez au moins pour l'arbitrage. Voilà. Donc, bon, je parle de l'arbitrage parce que c'est souvent un vrai débat dans le foot. C'est le calendrier qui est mal ficelé, c'est la coupe de la Ligue qui va aux uns mais qui va pas aux autres. Il y a toujours quelque chose qui va pas.
Ça tient, vous dites, à la volonté des présidents d'enfin lâcher un petit peu de leur pouvoir pour le conférer à une personnalité. Et l'autre aspect, ce serait que cette personnalité soit un véritable président fort. Aujourd'hui, le pouvoir est partagé un petit peu en deux. Et le dernier président, je le dis, je l'assume, je vous oblige pas à être d'accord avec moi, Frédéric Thirier était une sorte de pantin, le mot est un petit peu fort, mais de de représentants du foot comme ça, qui en plus dès qu'il parlait foot était toujours à côté de la plaque parce qu'on avait le sentiment qu'il savait pas de quoi il parlait.
Il a quand même à son crédit les premiers appels d'offres réussis, qui dépassaient les 400 millions.
Considérer que c'est un exploit, un appel d'offres. Le président de la Ligue n'est pas là uniquement pour réussir un appel d'offres. Un appel d'offres, c'est découper des lots, certes de façon intelligente avec des spécialistes.
Ça finance les clubs quand même.
Alors moi je vais vous dire,
Christophe Boucher.
Vous donner mon avis sur le sujet. Les appels d'offres, c'est un secteur que je connais bien. Il y a 4 ou 5 bonhommes qui ont réussi les appels d'offres dans le foot français.
Voilà.
C'est ceux qui étaient aux manettes derrière, qui s'appelaient à l'époque Stéphane Dor puis Guillaume Verly. Et le dernier, c'était Mathieu Ficot.
Le directeur juridique de la Ligue, oui.
Exactement. Le directeur est peut-être marketing maintenant, non ?
Je ne sais plus, mais enfin, il a été. Il s'occupait droit.
Ouais. J'ai dit Verly, c'est pas Verly, c'est Guillaume. Je m'excuse pour Guillaume, mais j'ai un trou de mémoire. Mais c'est eux qui. Je sais, puisque je l'ai fait, je faisais partie de la commission marketing, et c'est eux qui bâtissaient les appels d'offres. Bien sûr que les présidents donnaient leur avis, bien sûr que les présidents donnaient leur sensibilité, bien heureusement, parce que là-dedans, il y a des types de grandes qualités sur le plan économique. Je pense à un Aulas encore, je pense à un Sadran, je pense à un Jacques-Henri Hérault aujourd'hui, à un River, un Ferry, tout ça. Ces gens-là ont des compétences, des intuitions, mais de grâce, qu'ils lâchent la bride. Ils ont des bons techniciens. Et de même manière, il faut qu'ils aient un bon directeur général ou un bon président. Là, vous avez quand même un directeur général et une présidente qui ont été interdits d'aller négocier avec les diffuseurs.
Oui, c'est absolument hallucinant. Cet épisode-là a été terrible dans la séquence qu'on vient de traverser. Ouais.
Bah, d'ailleurs, j'ai lu une interview assez, me semble-t-il, sensée. Je ne peux pas me poser en censeur, mais assez sensée de Nathalie Bois de la Tour, qui elle-même dit que l'image qui a été donnée dans l'épisode, là, dans la période, il n'est pas bon. Ouais, quel dommage, quel gâchis. Parce que le foot ne retrouvera pas souvent, le foot français ne retrouvera pas souvent l'occasion de se refaire l'image qui est aujourd'hui médiocre.
Parler de l'épisode où un syndicat parallèle décide unilatéralement de baisser les salaires du président et du directeur général de la Ligue.
Oui, Première Ligue en l'occurrence. Oui.
C'était un épisode absolument grotesque. Comme a dit Nathalie Bois de la Tour, on aurait évidemment accepté, mais c'est quand même la moindre des choses de nous poser la question et de nous demander.
Christophe Boucher, est-ce que vous suivez toujours de près les affaires de l'OM ?
Oh, un petit peu, oui.
Vous avez vu qu'économiquement, ça va pas très fort, là ?
Oui, ça va pas fort. C'est compliqué. J'ai un peu de mal à comprendre. J'ai beaucoup de respect pour Jacques-Henri Hérault, qui me semble être quelqu'un qui sait où il va. J'ai l'impression que dans l'euphorie de l'arrivée de Franck McCourt, il y a eu beaucoup de dépenses autour des salaires des joueurs.
Oui.
C'est Jacques-Henri Hérault en l'occurrence.
Oui. Non, j'entends, mais je sais pas. Il faut pas commettre d'erreur. J'ai pas les éléments, donc je veux pas. C'est pas à moi de juger. Mais quelle enveloppe on lui a donnée, qu'est-ce qu'on lui a promis, etc., etc. Ça, je sais pas. Donc, il faudrait savoir. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'OM vit au-dessus de ses moyens. C'est un constat. Je pense qu'on pouvait faire vraisemblablement avec les mêmes joueurs 30% moins cher. Mais bon, c'est ainsi. Maintenant, il faudra, je ne sais pas ce que fera Franck McCourt. On a beaucoup raillé et j'en suis triste parce que si on remet dans le bon cadre, on a beaucoup raillé Robert Louis Dreyfus pour les pertes qu'il avait eues à l'OM. Mais finalement, Franck McCourt en quelques années a fait aussi bien. Ce que je regrette aussi parce que je pense que c'est pas un bon spectacle non plus là pour le foot. Je pense que le foot a besoin d'un OM fort. Je pense qu'un des vrais problèmes de la Ligue, c'est aussi qu'il y ait trop, et j'y ai participé, donc il y a trop de zapping au sein de l'Olympique de Marseille depuis 30 ans, et qu'il n'y a pas de dirigeant stable, et que la voix de l'OM ne porte pas suffisamment, et que la voix de l'OM ne portant pas suffisamment, il ne peut pas y avoir quelque part de gentleman agreement avec l'OL, avec le PSG, pour justement bâtir un collectif fort. Et ça joue des tours aussi au foot français.
Ah, vous êtes maire de Tours désormais depuis 3 ans. 3 ans, je crois. Vous avez aussi un club historique à Tours. Nous, on a Florent Gautreau qui était avec nous encore il y a quelques semaines dans l'after, qui suit l'actu du Tour FC frénétiquement.
Ouais, j'imagine, ouais.
Vous en êtes où, là, avec le club?
J'aurais préféré que vous ne me posiez pas la question, mais maintenant qu'elle est posée, je vais y répondre. Écoutez, ça va mal. Voilà, ça va mal. Le club est descendu de 4 divisions en 3 ans, ce qui est quand même un exploit. Ouais. Donc remonte d'une là ce coup-ci, mais je crois que c'est compliqué. Je crois qu'on a un propriétaire, Jean-Marc Ettori, qui est un vrai fan de foot, mais je crois que c'est compliqué. Tapie avait réussi, mais c'était Tapie et c'était l'OM. Je crois que c'est très très compliqué d'essayer de gérer depuis la Corse un club en Touraine. Et inversement, ça serait très compliqué de gérer depuis la Touraine un club en Corse. Un club, vous savez, c'est une partie intégrante d'une ville. Partout, dans n'importe quel club de foot, il faut que tous les ingrédients soient dans la marmite. Il faut que le pouvoir politique, le pouvoir économique, les supporters, qu'il y ait quelque chose qui se passe autour du club. Or ça a disparu à Tours. Et on a un propriétaire et président qui est un petit peu têtu. Ça peut être une qualité, mais en l'occurrence, ça nous joue quelques tours.
Merci beaucoup, Christophe Boucher. C'était intéressant. Merci. Et à très bientôt pour reparler foot sur RMC.
Allez, à très bientôt.
Bonne soirée.
Bonne soirée à
merci
vous.
Merci, monsieur Boucher. À bientôt.
Ettori, le patron du FC Tours, effectivement, qui bosse dans le tourisme en Corse, propriétaire d'hôtels, entre autres, compagnie de. Agence de voyage, tout ça.
Oui,
gros acteur économique en Corse du Sud. Il a racheté Tours. On va savoir pourquoi Tours.
Il avait mis ses hommes.
Il avait quelques visées sur l'aéroport aussi local.
Histoires, oui. On peut pas dire que ça a beaucoup marché quand même.
Ça
se voit.
Il bosserait en Corse du Nord, ça irait encore, mais en Corse du Sud.
Ah ouais, c'est la frontière. Corse du Sud. Je préfère la Corse du Sud, moi. Bon, après, chacun ses goûts.
Je préfère la Sardaigne, toi.
Non,
je plaisante parce que quand t'es à Bastia, ils te disent dès que tu passes le col, en dessous, c'est la Sardaigne.
Ouais, non, mais n'importe quoi.
Ah oui, mais bon, c'est la guerre entre les Corses.
Porto Vecchio, magnifique.
Ah oui, c'est magnifique.
Voilà. On a Brahim qui veut réagir au 32-16, là, suite à ce qu'a dit Christophe Boucher. Bon, il en voit quand même. Il est indépendant maintenant, il est plus dans le business. Il a été à des différentes commissions à la Ligue, il connaît à peu près tout le monde.
J'ai apprécié là, son discours. De toute façon, c'est ce qu'on dit depuis quelques temps maintenant. Il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas aux instances du foot. Non, mais c'est vrai. Non, mais pas nous. Mais ils pensent tout ça dans le football français aujourd'hui. Et malheureusement, ils font pas d'efforts, ils font pas union. Après, c'est ce que je lui disais. Les joueurs sont aussi certainement, je suis assez d'accord avec lui, responsables de la situation aujourd'hui. Mais il faut absolument qu'il y ait des gens qui montrent la voie. Et quand on parle de grands présidents, ça passe aussi par là, le message que t'envoies. Je sais pas, avec Pierre, on a connu des présidents. Y a des présidents qui te marquent à vie, et c'est pas forcément ceux qui ont le plus de résultats, mais qui sont charismatiques. Et quand ils te prennent, quand ils parlent au groupe, quand ceci, cela, tu suis parce que leur voix compte énormément. Et là, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs écoutent leur président comme ça.
Pierre, tu veux rajouter quelque chose à ce que tu as entendu là ?
Non, moi Jérôme a dit ce que j'aurais pu dire aussi. J'ai trouvé l'intervention très très cohérente, très très sensée, et c'est pour ça que je suis pas venu la polluer avec une question qui aurait ressemblé à celle de Jérôme. C'est que le foot fait penser à une famille dans la structure, enfin, ou devrait faire penser à une famille dans la structure, et finalement les joueurs, ce sont les enfants là-dedans. Compliqué de demander aux mille enfants de la famille, d'un seul coup de se réunir pour faire quelque chose de sensé tout ensemble. À un moment donné, si t'as pas le grand-père, le père, la mère qui s'entendent, qui donnent une ligne directrice, qui montrent l'exemple, compliqué pour le reste de la famille d'être cohérent aussi. Voilà. Donc c'est pour moi ça part du haut de la pyramide, c'est-à-dire ceux qui dirigent le football, et ensuite par répercussion ceux qui dirigent leur club, effectivement.
Dans quelques instants, on part en Allemagne, où ça va reprendre donc dans 9 jours. On le sait depuis quelques minutes à peine, hein, Paulo Breitner va tout nous expliquer. Et puis on aura également Brahim au 32-16, qui est supporter nîmois, il veut parler des abonnements. Brahim, vous allez voir, son point de vue est intéressant. C'est dans quelques instants dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Jérôme Rotten. Dans quelques instants, Paulo Breitner avec nous. Mais tout de suite, Brahim, qui est là au 32-16. Brahim, bonsoir.
Bonsoir les gars.
Brahim, t'es supporter de Nîmes ?
Ah, je suis un croco nîmois, hein, croco jusqu'au bout.
Très bien. Eh ben, écoute, croco maintenu, hein, puisque.
Bah, bravo pour le maintien.
Bah, ouais.
Franchement, on s'est maintenu, petite porte, toute ah, petite oui. porte, mais moi, c'est pas à l'heure actuelle le foot, je vais te parler, c'est secondaire. Moi, pour moi, c'est les clubs, ils sont en souffrance. On aime tous nos clubs. À un moment donné, faut qu'on arrête de pleurnicher et. Il faut que les gars qui ont mis de l'argent pour leur club, eh ben, ils ne le réclament plus. Moi, j'ai payé mon abonnement à celui de mon frère. Ça m'a coûté 900 euros à Nîmes, 450 euros par abonnement.
Ouais.
Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le réclamer.
Tu as décidé de laisser... Alors, est-ce que Nîmes a laissé la possibilité... Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé, le club, aux abonnés ?
Sur le site internet, billetterie indisponible, impossible de les appeler. C'est scandaleux.
Donc ils n'ont rien proposé. Ils n'ont pas proposé aux abonnés soit un remboursement comme dans certains clubs, soit un avoir, soit de laisser.
Ou une lettre pour expliquer la situation et d'essayer de trouver.
T'as rien reçu, Brahim ?
C'est un petit club niveau. C'est franchouillard, les gars. C'est.
Ah bah ouais, mais ça n'en paye. Ça marche.
Tu peux t'organiser quand t'es un petit club.
L'internet, les mails, ils marchent à Nîmes quand même. Rassure-moi.
Tu peux tenir au courant les abonnés quand même.
Non, ça marche super bien. Quand on est abonné, on reçoit tout en temps et en heure, nickel. Mais c'est un petit club. Moi, je parle pour des clubs comme Marseille et tout. Les clubs sont en souffrance. Ne réclamez rien. C'est votre club. Vous l'aimez. Faites un don, un geste. C'est comme ça.
Oui, mais c'est pareil. Écoute, Brahim, moi, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi parce que je vais t'expliquer. Pierre l'a dit et moi, je l'ai dit avant et c'est. Je pense qu'autour de la table, c'est ce qu'on pense, c'est que il y a une pyramide dans le foot. Tout là-haut, c'est le président. Après. T'as d'autres personnes. Après, t'as les joueurs. C'est dans les acteurs, c'est important. Mais je pense que quand eux ne montrent pas bien la voie, comment tu peux demander à des supporters qui ont payé leur abonnement, que ça soit 100 euros, 900 euros,
qui ont souvent moins de thunes que les mecs
qui ont souvent, certainement, alors que les joueurs ne font pas assez d'efforts, à mon sens, et laissent leur club dans la merde, et toi, tu dis, alors t'es gentil, hein, et tu dis, les gars, les abonnés, ne réclamez pas l'argent que vous avez versé, hein, parce que c'est pour votre club. Mais déjà, que les joueurs fassent des efforts de ce côté-là, et après, peut-être que là, en effet, les passionnés de votre club, parce que les supporters, eux, ils sont là à vie, hein. Les joueurs, on est tous de passage, hein, dans les clubs. Et ben, au bout d'un moment, tu peux pas être le dindon de la farce, quoi.
Moi, je te dis sincèrement, je préfère être le dindon et que mon club, il soit en vie, toujours. Un joueur, il est que de passage, comme tu l'as dit.
Ouais.
Moi, personnellement, dans mon état actuel, ça me fait pas mal de laisser mon abonnement au
club.
Non,
mais d'accord.
Après, je comprends malheureusement,
Brahim.
Voilà.
Oui, Pierre.
Malheureusement, Brahim, je pense que ce n'est pas la part d'abonnement qui reste qui sauvera ton club.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est ça.
Bon, Jean-Jacques Bourdin a expliqué que à Nîmes, ça va, hein. Nîmes va s'en sortir, économiquement, mais c'est tendu, mais ça passe.
On n'arrête pas d'en parler, messieurs, mais entre guillemets, les deux tiers de plus petits clubs de Ligue 1 qui ont eu une gestion plutôt saine parce qu'ils n'avaient pas le choix de toute manière, vont s'en sortir et vont réussir à s'en sortir. On parle là de supporters qui devraient faire des efforts ou des joueurs qui devraient faire des efforts pour combler non pas uniquement le trou que va laisser l'impact que va laisser la crise, mais une mauvaise gestion ou une gestion au-dessus de ses moyens de certains clubs. C'est pas possible. À un moment donné, en haut de la pyramide, Jérôme l'a dit, il y a des hommes qui ont géré les clubs, il y a des propriétaires qui ont mis de l'argent et qui l'ont utilisé d'une certaine manière. À eux de voir la gestion qui a été faite depuis quelques années dans ces clubs-là.
Brahim, t'as suivi que Ben Raoult a signé?
Ouais,
donc quand tu dis ça, tu veux dire qu'en aucun cas, Pierre, le joueur ne doit se soucier du sort économique de son club à partir du moment où il estime que la gestion a été mauvaise au-dessus.
Non, j'ai pas dit que tu devais pas t'en soucier. D'ailleurs, tous les joueurs ont fait déjà des efforts sur les salaires. Ils en feront encore, je pense, là dans les mois qui vont venir, puisque l'activité reprendra pas. Mais de par exemple, tout à l'heure j'ai pas réagi, mais de par exemple dire on laisse 3 mois de salaire, je suis pas d'accord. À un moment donné, le joueur peut faire un effort, une partie, de l'effort. Je pense que les clubs doivent en faire aussi une partie. On rigolera peut-être cet été quand certains clubs qui pleuraient et demandaient des efforts aux joueurs vont dépenser 15, 20 ou 30 millions sur un joueur. On rigolera. On se demandera comment d'un seul coup ils ne pouvaient plus vivre avec une masse salariale qui leur coûtait, je sais pas, 2 millions et demi ou 3 millions par mois et qui d'un seul coup peuvent dépenser 25 millions d'euros.
En Ligue 1, je suis pas sûr qu'on rigole à voir un joueur avoir un club dépenser 30 millions.
Tu verras.
Tiens, juste alors pour conclure, donc Ben Raoult qui était prêté par Bordeaux a signé définitivement un montant du transfert 1,5 million d'euros.
Le fils du professeur.
1,5 million d'euros, hein, Nîmes a payé Ben Raoult.
C'est le fils du professeur.
Mais je pense qu'il y aura, il y aura de moins en moins de transferts avec des proches chiffres. Hein.
C'est vrai que Ben Raoult, c'est le fils du professeur.
C'est Benjamin, c'est le fils. C'est le fils
du... Lui, au moins, avec le virus, c'est
Didier.
Il va pas se filer.
Le fils du Didier. Ah,
non, lui, avec le nom qu'il a, je peux te dire que
alors,
le virus,
il
veut venir sur lui, il repart direct.
Pour aller dans le sens, quand même, de Brahim sur l'histoire de laisser la part d'abonnement, moi, j'ai eu des gens à Strasbourg, des supporters, qui sont amusés à faire un petit sondage autour d'eux, dans les groupes de supporters, chez les ultras notamment, et tout. Et ils estiment à Strasbourg que près de 50% des abonnés vont laisser. C'est ce qui reste et pas demander d'avoir ou de remboursement.
Écoute, chacun fait comme il le sent.
À confirmer.
Chacun fait comme il le sent.
Voilà, ça irait dans le sens de Braille.
Je pense qu'à Nîmes, tout le monde va laisser. Il y aura un gros 90%. C'est vraiment des amoureux. C'est un petit stade, petit club. Le club, il est bien géré malgré que l'année dernière, on s'était dépouillé de toute l'équipe. On a perdu Savanier, c'était le cœur de l'équipe.
Ah non, tu t'es pas fait dépouiller du tout, hein. Tu les as vendus, tu l'as pas dépouillé, t'as vendu.
Non, mais si, c'est une façon d'être dépouillé.
Non. Si je viens chez toi et je prends toute ta garde-robe, je te dépouille. Si je te laisse un gros chèque à côté, je t'ai pas dépouillé.
Pardon.
Je joue pas sur les mots. La base économique de nos clubs, c'est la vente.
Et je te parle pas.
Jérôme, voyons.
Non, mais d'accord, ok. Alors,
donc toi, je t'ai pas dépouillé si je t'ai payé.
Tu parles dans la peau du directeur sportif, du président, de l'actionnaire.
Mais c'est ce qui s'est passé à Nîmes.
Non, mais le supporter, lui, il s'en fout économiquement, combien ils ont vendu ou quoi que ce soit. Le supporter, pour lui, quand il voit que son équipe, elle change à 90%, il se dit, on a été dépouillé. Mais, il parle. Non, mais.
Non,
tu comprends.
Il y a de l'argent qui est rentré en retour.
Et l'argent, il rentre pas pour les supporters, ils s'en foutent.
Oui,
et pour les supporters,
Il rentre dans le club.
En fait, Daniel a raison sur le plan purement économique et Jérôme a raison sur le plan émotionnel pour le supporter.
Sur le mot dépouillé.
Le gars, le Nîmois qui voit Savanier s'en aller, il dit ah, j'aurais bien aimé garder Savanier.
Il y a un carreau de chocolat.
Il va faire l'économie, il va réfléchir avant de se laisser aller à l'émotion qui souvent devient une peste émotionnelle. Parce qu'elle l'empêche de réfléchir.
Oui, mais le football, c'est de l'émotion, Daniel, tu le sais bien.
Oui, mais il faut faire attention quand ça t'empêche de réfléchir.
Oui, mais il ne faut pas non plus que tu gommes toute émotion. Garde ton émotion en toi. Ton émotion d'enfant.
Je pense l'avoir plus que tout le monde, sauf que moi.
Ah bon ?
Et la valeur suprême pour moi, c'est la lucidité. Ne pas être pris pour un con. Donc même quand j'étais supporter, que j'allais au stade et tout, je ne voulais pas être pris pour un con. Je voulais pas que les présidents nous racontent n'importe quoi et des histoires sur les ventes.
En plein, qu'on n'aurait pas laissé sur l'abonnement, tu vois.
Ben oui, non mais il faut arrêter d'être voilà.
Dans quelques instants, l'Allemagne pour le Breitner nous attend.
Tu plaisantes quand même quand tu dis à un qui n'aurait pas laissé son abonnement. Moi, je vais te dire, moi, je suis dans cette situation à Paris. Ok, d'accord.
Tu es abonné au Parc des Princes.
Je suis abonné. J'ai plusieurs abonnements au Parc des Princes. Tu vois. Franchement, quand je vois que il y a aucun accord des joueurs.
Et bien sûr. Vous délirez ou quoi?
Mais tu crois que je vais m'asseoir sur mon abonnement?
Franchement,
au bout d'un moment, montrez-moi l'exemple. C'est exactement la pyramide. Montrez-moi l'exemple. Après, on parle.
Il y a un mois, je lis dans le journal négociation. Tu sais, les gens s'impatientaient et disaient ah les mecs du PSG. Je dis calmez-vous, ça vient de commencer. Regardez, ils sont en train de discuter. C'était il y a un mois. Donc moi, il y a un mois. T'es positif, t'as pas envie de tomber sur les gens. Tu veux prendre ton temps. Calmez-vous.
Attends.
Un mois après, putain, il y a toujours rien.
Bah, c'est surtout ce qui sort.
Il y a toujours rien.
On trouve pas d'accord.
Voilà. L'image, encore une fois, déplorable que donne le PSG. Non, mais sans déconner.
Et voilà, donc moi, mon abonnement, je peux te dire que ça va pas se régler comme ça. Hein.
Bien sûr.
Mes abonnements, en plus, c'est pas mon abonnement.
Allez, à tout de suite dans l'After, on part en Allemagne.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Jean Bretel est là, Daniel Riolo est là et Pierre Ducrot est là. Et qui c'est qui arrive ? L'homme qui, dans 9 jours, reprend le football. Eh oui, on l'a appris tout
avec,
à l'heure.
Avec, comme disait Pierre, il avait raison, le derby de la Roure. C'est un Dortmund-Schalke.
Ah oui. Paulo Breitner, bonsoir.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo.
Polo. Donc c'est confirmé. Hein. Raconte-nous ce qui s'est passé aujourd'hui.
Non, ce n'est pas confirmé. Vous confondez tout.
J'ai une dépêche avec sous les yeux.
Vous confondez tout. Vous confondez tout.
La date de la reprise du championnat d'Allemagne a été fixée au 15 mai, a indiqué la Ligue allemande ce soir.
Non, elle est fixée à la mi-mai. Aujourd'hui, la DFL doit prendre la.
Bon, bah écoute.
Et le 15 mai, c'est bien la mi-mai quand même.
Bah, en même temps, le 15 mai, c'est la mi-mai.
Oui, mais c'est pas pareil, parce que tu joues sur les mots. La décision, le décisionnel, mon cher Gilbert, sera pris demain par la DFL, définitivement. Il y a des problèmes entre les clubs qui ne sont... Il y a des problèmes entre les clubs professionnels, qui ne sont pas d'accord sur la date de reprise du championnat. Ah. Le club de Brenne n'est pas d'accord, le club de Mayence n'est pas d'accord. Et donc, l'histoire de la mi-mai, si tu veux, évidemment, ça devient dans les médias, notamment les médias qui veulent absolument... Exactement, c'est ça en fait le truc. Donc
ça nous rassure.
C'est pas le 15 mai. Le 15 mai.
Dans l'idée que ça va rejouer, le ministère a parlé. Alors qu'elle a parlé, tout le monde.
Le ministère a parlé. Oui, alors mais en fait le problème, si tu veux, c'est que depuis une quinzaine de jours, il y a énormément de polémiques en Allemagne. Et pour simplifier, il y a trois fronts. Je veux dire, il y a trois syndicats qui sont mis en place. D'un côté, le syndicat des clubs, de l'autre côté, les syndicats des joueurs, et j'ai envie de dire le syndicat des supporters. De l'autre, parce que chacun ont des intérêts différents pour cette reprise. Et derrière la communication, notamment de la DFL. Et encore une fois, il faut féliciter le président Seifert de son énorme boulot pour avoir proposé un plan de reprise et notamment un plan sanitaire pour la reprise de la Bundesliga, qui d'ailleurs a été encore plus, j'ai pas envie de dire sanctionné, mais par les autorités sanitaires, c'est-à-dire qu'ils ont encore augmenté les tests pour que ça y ait de moins en moins de risques. On sent qu'il y a des fractures et des personnes qui ne pensent pas forcément la même chose. Les joueurs ont fait très clairement, alors il n'y a pas eu, comme en France évidemment, des déclarations dans les médias, mais il y a eu des communiqués comme quoi ils sont d'accord pour reprendre, mais pas
le concours de majorette en Allemagne.
Mais pas avoir un rôle particulier, c'est-à-dire que le football professionnel, les joueurs ne souhaitent pas, en tout cas le syndicat des joueurs, ne souhaitent pas que ce soit différent de ce qui se passe dans la société. Ensuite, il y a évidemment les supporters qui sont les grands lésés quand même dans cette histoire, puisqu'on reprend les matchs à huis clos, ne l'oublions pas. Mm-hmm. Donc les ultras estiment qu'on n'a pas le droit, que le football, puisque tout le monde parle de famille, on en fait partie, donc on devrait être aussi au stade, et tant qu'on ne peut pas aller au stade, et ben on ne reprend pas la Bundesliga. Ça, c'est leur point de vue, je ne porte pas de jugement là-dessus.
Même jusqu'en janvier de l'année prochaine, on reprend jamais en fait tant que.
Mais le vrai problème, il est là, Daniel, c'est que personne ne sait quand est-ce que tout va se finir. Donc oui, tout le monde parle, tout le monde a un avis, tout le monde dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, je connais le patron d'un club, moi je connais un supporter, moi je connais ceci. Et en fait, personne ne sait quand est-ce que cette pandémie va s'arrêter complètement. Et tout le monde fait des projets sur les comètes, etc. En pensant que ça va se passer comme ça. Je rappelle quand même que la Ligue était prête à reprendre la Bundesliga depuis le début, en tout cas dans sa communication, depuis le mois d'avril. C'est-à-dire que le football professionnel allemand s'était mis complètement à l'écart de ce qui se passait, dans la population. Donc, la bonne nouvelle, en effet, c'est que le gouvernement de Mme Merkel a renvoyé la balle dans les régions en disant, OK, on peut reprendre à partir de la mi-mai. C'est à la DFL, donc, la Ligue de football allemand, de prendre son décisionnel. Est-ce qu'on prend le 15 mai? Certains clubs ont été d'accord, comme par hasard, les gros clubs allemands. Les clubs les plus en difficulté ou qui estiment qu'ils sont en retard au niveau de la préparation, où je mets le pseudo préparation, parce que chacun, évidemment, vous avez bien vu depuis des semaines, on recule.
Leur donne 4 jours de plus, voilà.
C'est à peu près ce qui risque de se passer, je pense.
Et t'as déjà un calendrier de fixé?
Mais non, justement. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. On nous explique que logiquement, on devrait reprendre le 15 mai avec Düsseldorf-Paderborn, par exemple, qui est une formidable affiche, évidemment. Mais en gros, pour ça, c'est, ça sera.
Je regarde quand même.
Ce qui est un peu dommage, c'est que Düsseldorf, c'est un stade de 54 000 places. C'est ça qui est un petit peu dommage.
Ouais, Düsseldorf-Paderborn, par exemple, c'est quoi? C'est 60-40, Düsseldorf?
Pour de quoi au niveau des moi un stade de football sans supporters c'est pas du football donc
sans supporters.
Bah pour toi si tu veux, moi j'étais grâce à vous au match PSG Dortmund, je me suis pas éclaté, je suis désolé. Donc c'est pour ça, moi je si tu veux, ce qui se passe là, OK, on veut récupérer.
Par contre,
est-ce que je peux rajouter d'autres polémiques?
Ah,
vas-y. Est-ce que je peux rajouter d'autres polémiques qui sont arrivées en Allemagne? Je rejoins ce qu'a dit Pierre. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Pierre tout à l'heure sur l'histoire, quand est-ce que les clubs vont sortir 20 ou 30 millions, ce qui fait extrêmement, ce qui est extrêmement pénible dans la société allemande, et d'ailleurs on le voit dans les sondages par rapport à la reprise de la Bundesliga, c'est que tout le monde nous fait comprendre que reprendre, c'est absolument vital pour l'avenir des clubs allemands, et en même temps, les autres clubs, ils prolongent les joueurs, ils commencent à négocier les contrats, ils sont en négociation pour faire baisser les tarifs, mais quand même, ils ont les 10-15 millions pour aller chercher le joueur qu'ils ont besoin, donc si tu veux, ça choque beaucoup, à tel point que dans le journal Kicker, une fois qu'on a sorti cette fameuse date de la mi-mai, qu'on doit être, on va dire le 15 mai pour te faire plaisir, mon cher Gilbert, le de reprise, eh ben, on se rend compte qu'il y a 52 personnes, des personnes qui ont voté pour la reprise de la Bundesliga, et 48% qui sont contre cette reprise de la Bundesliga, et on retrouve les mêmes thèmes dans la société allemande.
Ça, c'est le grand public, tu veux dire?
Oui, c'est grand public, sauf que Kicker, si tu veux, c'est quand même spécialisé pour les footeux. C'est eux qui votent. Et tu retrouves des mêmes sondages dans la société allemande sur l'histoire du déconfinement de Madame Merkel, décidé par Madame Merkel. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on n'a pas bien fait? Est-ce qu'on devait le faire plus tard? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société allemande et le foot en particulier, je le trouve extrêmement fractionné. Je ferme la parenthèse sociétale.
C'est quand même un truc commun dans tous les pays européens aujourd'hui, hein, là-dessus. Le débat qu'on a nous ici, qui a enflammé l'after il y a quelques jours.
Les deux autres, le gouvernement est quand même beaucoup plus suivi que
le gouvernement.
Je te parle de
c'est un pays fédéral.
Non, mais il y a deux autres thématiques. Il y a quand même plus de soutien.
Deux autres thématiques qui me semblent très importantes, en tout cas que je trouve aussi populistes, c'est qu'on sent. On sent dans la crise actuelle, évidemment qu'il va y avoir une pression salariale très importante sur les joueurs qui vont être en fin de contrat, etc. Et on sent une forme de revanchisme, pour employer un mot très à la mode, avant la Seconde Guerre mondiale, des clubs qui veulent faire payer, entre guillemets, les joueurs en disant, il y en a marre de ces petits frimeurs qui nous enquiquinent depuis 25 ans dans les négociations salariales. Je parle de ce que dit, par exemple,
Vatsky. Ils veulent reprendre le pouvoir sur les joueurs, quoi.
Ils veulent reprendre le pouvoir et dans les négociations, tu sens, par exemple, que Freddy Bobic, dont le très très bon manager de Francfort, est en train de faire comprendre que de toute façon, c'est nous qui allons faire la loi de l'offre et la demande parce qu'il va y avoir la queue à la NPE fin juin, etc., etc. Tu as des reprises comme ça en main où on se dit, oulala, les mecs qui ont 15 000 bagnoles, on veut plus les voir, les mecs qui font de la frime, on veut plus, les steaks en or, on n'en veut plus, les mecs qui friment tout ce qu'on veut, on n'en veut plus. C'est-à-dire qu'il y a une forme de revanche qu'ils veulent sur les joueurs qui me semble d'ailleurs un petit peu populiste à ce niveau-là parce que c'est quand même lié à la mode cette crise qui se permet. Pardon ?
En ce moment, c'est assez tendance.
J'ai une autre thématique qui m'a...
Pour réagir sur celle-là, ouais. Polo, c'est que on sait tous ici que ce ne sont pas les joueurs qui ont imposé quoi que ce soit au club, et ce sont les clubs entre concurrents qui ont sans cesse fait monter les enchères au niveau des transferts, au niveau des salaires et à peu près à tous les niveaux, et que ça continuera comme ça. Voyons. Ça continuera.
Mais non, t'es pas au courant de ce qui va se passer après la crise ?
Oui, plus personne n'aura d'argent.
Ben non, c'est fini. Après, c'est le monde nouveau. Tout le monde parle du monde nouveau. On ira voir les diffuseurs, on leur dira non, vous avez plus le droit de mettre autant d'argent. Il y aura une limite. On limitera à 300 millions pour la Ligue 1, à 250 pour la Bundesliga, et on limitera tous les salaires. T'es pas au courant, mais si, ça va. Le monde nouveau, il commence début septembre, c'est calé.
À 100 millions et plus, parce que maintenant c'est plus et je vous laisse ceux à 50, à 60, à 70 millions. C'est pas les joueurs qui s'en occupent de ça. Ce sont les clubs entre eux. Donc j'y crois moyennement au renouveau du foot avec les salaires qui deviendraient un peu plus. En tout cas pour une partie de joueurs, ça n'arrivera pas. Voilà. Les joueurs qui sont très demandés, un Sancho par exemple pour rester chez toi, Polo, je pense que si ça part, ça partira très confortablement aussi cet été.
Il est fort possible. D'ailleurs, enfin, les infos que j'ai, c'est qu'il est quand même plus en partance qu'autre chose. L'autre thématique qui me semble importante, c'est la task force, une nouvelle task force qui a décidé de lancer. Donc moi, encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit sur la frime et tout ça, je porte pas de jugement. Je dis juste ce qui se passe en ce moment. Comment certains présidents de clubs ont envie de reprendre la main, en tout cas par rapport à ce qui se passe.
C'est ça que mieux vaut que je prenne pas position.
Oui, sauf que j'en ai aucune, donc c'est la deuxième. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est ce qu'a fait Seifert, c'est qu'il va mettre en place quand même, moi je ne sais pas quel sera le monde d'après, mais Seifert a décidé avec les clubs allemands de mettre en place une task force au niveau des modèles économiques à redévelopper après cette pandémie. Et notamment, on parle de plus en plus, même si c'est très compliqué pour un pays de mettre en place un contrôle salarial, de couverture ou de salarié cap, comme on dit en provenance évidemment des États-Unis. États-Unis et ils vont penser, ils vont en tout cas réfléchir à savoir comment assurer le maintien financier des clubs. Ça me semble quelque chose d'extrêmement intéressant parce que si on ne réfléchit pas un petit peu quand même à ce qui se passe durant cette période, je ne sais pas quand est-ce que nous allons y réfléchir. Voilà, je ne porte pas de jugement
sur ce serait intéressant, Polo. Ce serait intéressant, Polo, sauf ce serait très intéressant, ça deviendrait très intéressant si c'était harmonisé sur le plan européen.
Et pas, ben c'est le vrai problème, c'est pour ça que tous ceux qui nous vendent, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tous ceux qui nous vendent le salary cap comme ça, en national, c'est extrêmement compliqué à mettre en place.
Merci Polo, j'arrête pas de le répéter tous les soirs, tous ceux qui ont les fabuleuses idées et qui pensent qu'on peut le faire solitaire.
Inviter, mon cher Daniel, invite un véritable économiste à ta table et je t'expliquerai tout ça.
Mais le...
Il est tout, Polo.
Bah écoute, j'ai passé une partie de ma vie à restructurer des sociétés, donc si tu veux, je suis pas dans celui qui a fait ce que dit Keynes ou ce que dit Friedrich Hayek, etc. Il y a un moment, il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe tous les jours. Et je suis tout à fait d'accord avec l'histoire de Pierre sur l'histoire de savoir comment ça va se passer après, mais ne pas oublier quand même que sur le dernier quart de siècle, les grands vainqueurs de l'évolution de l'économie du foot européen notamment, ce sont même les joueurs, faut pas l'oublier non plus.
Ah oui, ceux qui en profitent, tu as raison, ce sont les joueurs, bien sûr, voilà, bien sûr.
Mais je critique pas ça, je dis juste qu'il faut comprendre le truc.
Je te rejoins sur le fait que les joueurs en profitent et sont les bénéficiaires. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que c'était trop facile de dire que c'était la faute des joueurs quand tu as dit que les clubs voulaient reprendre ce que les joueurs leur avaient pris. Les fautifs de cette bulle, de cette envolée, ce sont quand même à la base les clubs.
Arnaud, bonsoir.
En tout cas, moi, bonsoir. Je suis rassuré parce que j'ai vu au moins une petite dizaine de stars d'Hollywood là signer la pétition pour refuser le monde d'avant et le monde nouveau. Ils ont envoyé ça depuis leur villa de Beverly Hills. Ça, c'est, je suis rassuré. Là.
Tout va bien.
Arnaud, tu es supporter de Dortmund.
Monde nouveau, là, c'est très bien.
Oui.
Bon, qu'est-ce que tu penses de la situation allemande là?
Beaucoup de mal à me positionner. Je dirais d'un point de vue strictement égoïste, et ben quelque part je serais plutôt content de revoir les matchs de mon équipe préférée. Cela n'empêche que j'ai quand même beaucoup de mal à savoir si la reprise de ce championnat est une bonne ou une mauvaise chose. Est-ce qu'il aurait fallu attendre encore un petit peu? Est-ce qu'il fallait pas que ça reprenne du tout? Très franchement, j'arrive pas à m'en réjouir, mais j'arrive pas non plus à me dire que c'est totalement mauvais non plus, parce qu'on a tous envie de revoir des matchs de foot. Alors l'eau est quelque chose qui est très loin de me convenir évidemment, mais c'est du mal à avoir un avis, franchement. Je me doutais que ça reprendrait parce que ça faisait quand même plusieurs jours et semaines qu'on entendait ça et on sentait que c'était une volonté très claire de la part d'ensemble des dirigeants, ou du moins d'une grande partie. Mais de là à ce que ça se déroule d'ici 10 jours, pour suivre de près un petit peu l'évolution des conditions d'entraînement des joueurs pour ce qui se fait à Dortmund.
Alors, on est où d'ailleurs là? Parce qu'en fait, on a différentes versions en France là. Ça y est, ils s'entraînent ensemble, contact et tout, ou pas encore?
Ils ont redémarré sous forme de petits groupes.
C'est pas encore des vrais entraînements, quoi.
Alors, non. Les contacts sont autorisés en fait depuis le 27 avril et aujourd'hui, ils sont par des groupes de 4-5. C'est notamment l'une des questions d'avoir des équipes. En fait,
Le contact par groupe de 4-5, ça change quoi?
C'est pas la question que ça reprenne le 15, le 21, le 23, on s'en fiche à la rigueur, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. On ne sait pas du tout dans quel état vont être les équipes. On ne sait pas du tout si les joueurs vont avoir peur ou pas. Donc encore une fois, ça sera limité à 300 personnes à l'intérieur du stade, de très bien délimité, etc. Mais encore une fois, il y a eu vous avez vu que ils étaient tous contents. Quand je parle de double communication, ils étaient tous contents en Allemagne, notamment la DFL, le fait d'avoir fait un nombre de tests incalculable sur tous les clubs de première et seconde division, en disant regardez, on les teste, et puis finalement on s'est rendu compte qu'il y a des joueurs qui étaient positifs. Ouais. Et donc ça commençait à jeter un froid, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté un peu Barnum, c'est fabuleux, regardez, on reprend, mais de l'autre côté il y a la réalité des choses. Et quand tu as des joueurs de Cologne qui disent, notamment le Belge qui dit je pense que si on nous avait demandé à nous ce qu'on pensait de la reprise sans avoir la pression des clubs derrière nous, peut-être que le résultat serait un petit peu différent que ce qu'on pense aujourd'hui. Encore une fois, je ne porte pas de jugement, je dis juste que on sait pas où on va. Ce niveau-là, ouais.
Moi j'ai une question, oui, parce que on se, alors plus ou moins répondu, mais j'ai peut-être pas bien entendu. ils s'entraînent comment là? C'est par groupe de...
Alors ils s'entraînent, en fait ils ont le droit théoriquement, en fait même juridiquement ils ont le droit depuis le début à avoir des contacts. Ça c'est quelque chose qui était, parce que tu sais qu'on est dans un système fédéral et en fonction de chaque région tu fais pas la même chose.
D'accord.
C'est, okay. Ça fait partie. Munich, tu peux avoir des contacts, c'est pas en bourre.
Ça c'est incroyable.
Exactement, exactement. C'est des trucs, des choses, bon ben voilà, c'est comme ça, c'est le fédéralisme, ça a des avantages.
Et ils s'entraînent tout le groupe parfois. Ensemble.
Alors ils s'entraînent par groupe, pas ensemble en fait. Mais ça ne veut pas dire, et ça c'est... Ouais, mais ça ne veut pas dire que quand tu es un club qui est en grande difficulté, parce qu'on n'a pas parlé du juridique, mais on sent que ça va arriver en Allemagne, hein, Brême a commencé, qui est en difficulté aujourd'hui en position de relégable, t'inquiète pas qu'il est en train de regarder avec ses avocats tout ce qu'il peut faire pour pas descendre, hein. Faut pas se mentir, pleurer, hein. Donc, un club comme Düsseldorf qui veut absolument se sauver et qui est barragiste aujourd'hui, bah, je peux t'assurer que les entraînements, je suis pas persuadé qu'ils respectent à la lettre tout ce qu'ils doivent faire ou tout ce qu'il y a, tout le protocole sanitaire que, qu'a proposé le médecin du club.
Ouais, bah, mais en fait, moi, c'est...
On va juste conclure avec Arnaud. Arnaud, merci beaucoup.
Merci bonne Arnaud. Fin de soirée.
Bonne soirée, à bientôt en fait, pour reparler de ce qu'il y a.
Je rebondis là-dessus parce que moi, je veux bien qu'on essaye. Bien sûr que moi, je serais le premier ravi de voir la preuve. On est en excitation en se disant, ah, imagine le 15, le 16,
il y a un match
même à huis clos, même si les joueurs, ils sont pas en forme. Mais en fait, moi, je pense aux joueurs. Et Polo a raison, il y a plein d'interrogations aujourd'hui. Ce que je veux dire, bon, la crainte, ils l'auront dans tous les cas, surtout s'ils n'arrivent pas à s'entraîner ensemble, groupe de 25 comme d'habitude, avec un entraînement classique, ça déjà. Et comment, si tu n'arrives pas à mettre ça en place dans beaucoup de clubs, comment ils peuvent reprendre la compétition, c'est-à-dire dans 9, 10, 12 jours?
Alors, c'est
important ce que tu dis. Et le danger, Polo? Oui, pardon. Pour compléter ce que dit Jérôme, mais Jérôme va, je pense, être d'accord avec moi. Le danger, c'est que les joueurs auront beau ne pas avoir pu s'entraîner correctement. Le jour du match, quand tu vas être dans l'adversité, dans la compétition, eh oui. 99%, et ça répond aussi peut-être à ta question tout à l'heure, Polo, où tu te demandais si des joueurs allaient avoir peur. Je pense que 99% des joueurs vont jouer de façon naturelle, parce que c'est plus fort que toi quand tu es dans un match avec une adversité. Tu rejoues au foot normalement, quoi. Et tu vas te retrouver avec des joueurs qui vont refaire des efforts pour lesquels ils ne sont pas, à mon avis, préparés. Mais bon, ça c'est à la limite, c'est peut-être pas la chose la plus grave, mais voilà, faudra être indulgent.
Alors, c'est important, j'ai oublié de vous le dire. Vous savez qu'en Allemagne, on ne faisait pas trop de quarantaine, sauf les joueurs qui étaient testés positivement. Mais là, pour le cas de la reprise de la Bundesliga, les joueurs seront mis une semaine avant en quarantaine tous. C'est-à-dire qu'on va les tester dans tous les sens, etc., pour qu'il y ait vraiment le risque minimum. Hein. Je ne dis pas qu'il sera le risque zéro. Voilà, donc ça sera spécial. Moi, je suis optimiste dans le sens où je me dis, ben écoute, au-delà des argentiers qui évidemment veulent récupérer tout l'argent qu'ils peuvent, mais ce qui pose pour moi d'ailleurs le problème des modèles économiques des clubs de football, c'est le, je me dis, tiens, ben si ça commence, peut-être qu'on est en train de ressortir d'une période. Maintenant, tu le sais, Gilbert, il y a des chiffres qui sortent en Allemagne sur la société allemande. Enfin, il y a des risques. Hein, on parle beaucoup de deuxième vague en Allemagne, que les Allemands sont pas aussi sérieux qu'on veut bien le dire. Madame Merkel, elle est un peu. Il y a des campagnes de presse aujourd'hui contre les virologues qui ont fait un excellent boulot depuis le début, qui s'en prennent plein la tronche, voilà, enfin c'est pas sain, j'ai envie de dire, mais je me dis que s'il y a un match de football, même, voilà, je me tais.
Polo, reste avec nous, on va parler tactique dans quelques instants, ça va t'intéresser, puis tu pourras nous donner ton avis sur ce qui se passe en Allemagne, donc comme ça tu restes, et puis après tu nous parleras de Mönchengladbach, on va se replonger dans le grand Mönchengladbach des années 70 avec toi. Juste avant, j'ai un message d'Hussein, notre fidèle afterien qui suit le foot turc de près, il nous dit, bonne nouvelle pour Jérôme Rantaine, le foot turc reprend le 12 juin.
Et
il dit, nous aussi on a notre Jean-Michel Aulas.
Ankara Gouchou.
Écoute ça, il y a deux mois, Fatih Terim crie au scandale, il voulait que le foot s'arrête pour des questions sanitaires. Aujourd'hui, comme son équipe est troisième, il milite pour que ça reprenne.
Mais exactement. Allez.
Ah oui.
Ouais.
Ouais, c'est parfois l'opportunisme. Voilà. Valeur bien partagée.
Ouais.
En parlant de ça, encore une interview de Jean-Michel Aulas, la quotidienne.
Ouais, j'allais en parler tout à l'heure.
Une quotidienne.
Quotidienne.
Il dit que c'est peut-être pas fini. On peut peut-être encore changer les choses.
Il dit qu'il attend le PV de la.
On en a parlé hier déjà.
Non, mais là, il le redit.
Là, il dit que c'est pas mort.
Vas-y, j'en peux plus, Jérôme.
Parle-moi de tactique, là.
Allez, dans quelques instants, on parle tactique, effectivement, avec toute l'équipe dans l'After. À tout de suite.
RMC, l'After Foot.